Très bon réveil à tous, voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La multiplication des cas de coronavirus en Italie inquiète les pays frontaliers. Le nord du pays est particulièrement touché. 11 villes sont en quarantaine. On fait le point sur les situations en Italie et en France.
La crise économique s'aggrave au Liban et ça se voit. 800 restaurants ont fermé en quelques mois. Reportage à Beyrouth.
Des soupçons d'emploi fictif, de détournement de fonds publics, les époux Fillon devront s'expliquer à partir d'aujourd'hui devant la justice, 3 ans après le scandale qui a pulvérisé la campagne présidentielle de François Fillon.
Le recours au 49-3 n'est plus un tabou dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les députés continuent l'examen de la réforme des retraites sans grande avancée. Le gouvernement pourrait dégainer cet article qui permet de faire passer un texte sans vote.
Et après ce journal, la question du jour, Guillaume.
Eh bien, on parlera de la 5G. Y a-t-il un bug dans la 5G ? On posera cette question à Sébastien Soriano. Il dirige l'ARCEP.
L'Italie du Nord tourne au ralenti. Le carnaval de Venise est arrêté. Les musées et les écoles fermées. Les matchs reportés. 11 villes sont placées en quarantaine pour 2 semaines. Depuis vendredi et la mort d'un premier Italien du coronavirus, le nombre de personnes contaminées se multiplie. De 6, il est passé hier à environ 150 et désormais 3 morts. C'est en Lombardie que les cas sont les plus nombreux et notamment au sud de Milan. Sur place, le reportage de Bruce de Galzin.
Carabiniers, pompiers, police nationale, il a fallu s'organiser pour mettre en place le périmètre de sécurité. Mais désormais, les contrôles à l'entrée et à la sortie de la zone confinée seront systématiques. Piero Vita Casal Pusterlengo, il prend très au sérieux cette mesure de confinement.
Nous ne pouvons plus sortir du territoire, tout est bloqué, donc maintenant impossible de sortir de Casal. Et si tu es pris, tu dois payer une amende de 600 euros et tu es poursuivi.
Piero porte un masque, il estime que cela le protège. Mario, lui, n'a pas pu en trouver, rupture de stock, mais il s'inquiète surtout de l'état de son hôpital.
Tout le personnel n'a pas pu passer les tests ni les visites médicales. Parmi les personnes qui travaillent à l'hôpital, toutes n'ont pas pu être contrôlées.
À Codogno, à 5 km de là, où le premier cas de coronavirus a été détecté, l'hôpital a même fermé. Plusieurs soignants sont contaminés. Andrea vit à Codogno et son frère travaille dans la même entreprise que le premier cas détecté.
Dans l'entreprise où il y avait ce garçon, des tests ont été faits sur tout le monde et mon frère qui travaille là aussi a fait le test et il attend les résultats même s'il n'a jamais vu le garçon.
Andrea comme son frère ne retourneront pas travailler, ils sont confinés chez eux au moins toute la semaine, ils pensent même davantage.
Les pays voisins de l'Italie surveillent cette évolution. La France se prépare à une possible épidémie. Il est très probable que de nouveaux cas soient détectés dans l'Hexagone, avait expliqué le ministre de la Santé. Olivier Véran a détaillé hier soir les mesures prises pour faire face à une possible propagation du coronavirus. Il a annoncé l'activation de 70 hôpitaux supplémentaires.
Pour accueillir les éventuels malades, nous disposions jusqu'à présent de 38 établissements de santé, essentiellement les CHU. 70 établissements sièges d'un SAMU seront activés pour augmenter nos capacités de réponse si c'était nécessaire, de sorte que tous les départements de métropole disposeront d'au moins un centre hospitalier capable d'accueillir les malades, de les prendre en charge du début à la fin. Nos capacités de diagnostic biologique vont également être augmentées. Dans les hôpitaux de Paris, nous sommes à 400 tests par jour et donc nous allons pouvoir, en amplifiant le mouvement à l'échelle du territoire, être largement en mesure de répondre aux demandes, quelles qu'elles soient, de réalisation de tests diagnostiques.
Le ministre de la Santé qui doit rencontrer la semaine prochaine ses homologues italiens et allemands pour faire le point. Nous y reviendrons avec Camille Magnard dans sa revue de presse internationale. La Corée du Sud est depuis hier en état d'alerte maximum à cause du coronavirus. Toujours 161 nouvelles contaminations ont été annoncées ce matin. En tout, plus de 700 personnes sont concernées, 7 sont mortes. C'est désormais le plus important foyer de l'épidémie en dehors de la Chine. L'armée israélienne a revendiqué cette nuit une série de frappes aériennes contre des positions du djihad islamique en Syrie après des tirs de roquettes par ce groupe islamiste armé depuis Gaza. 2 combattants du djihad islamique ont été tués à Damas, la capitale syrienne, selon le mouvement. La France se tient toujours prête à aider le Liban. Déclaration hier du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Le Liban enfoncé dans la crise, les crises économiques, financières et politiques. Un nouveau gouvernement gouvernement fragile doit restructurer la dette du pays qui aujourd'hui représente 150% de son PIB. La situation est telle qu'elle rappelle celle de la Grèce en 2008 et il suffit de se promener dans la rue pour se rendre compte de certaines conséquences. 250 000 emplois ont été détruits depuis septembre, notamment dans la restauration. 800 établissements ont fermé en 5 mois. À Beyrouth, Aurélien Colli.
Il y a un restaurant qui a fermé là, deux autres là-bas, ça ne va pas, il n'y a plus de business. Constat amer de Ellie qui voit les rideaux de fer se baisser un à un dans son quartier. Sophie, elle résiste jusqu'à présent mais ne rentre plus dans ses frais.
On a des problèmes avec les banques qui ne nous laissent pas retirer du cash. Les fournisseurs qui, eux, achètent toutes leurs marchandises en dollars, comme il n'y a pas de dollars en ville. Tout a doublé, triplé.
Cette flambée des prix, liée aux restrictions bancaires, à l'effondrement de la livre libanaise et à une dépendance totale aux importations, difficile pour les restaurateurs de la répercuter sur leurs cartes, car la clientèle est moins nombreuse dans un Liban où les prix à la consommation s'envolent et où le pouvoir d'achat fond. Nous employons 150 000 personnes dans ce secteur avec l'hôtellerie. 25 000 ont déjà été licenciés. 800 établissements fermés depuis septembre, résume Maya Bakazi, secrétaire générale du syndicat des restaurateurs, qui réclame une intervention du gouvernement. La première stratégie pour survivre, c'est d'essayer de faire de la gestion de crise, réduire les effectifs, les horaires, les salaires, renégocier le bail, négocier avec les fournisseurs, insiste cette propriétaire de plusieurs établissements, consciente que nombre de restaurateurs utilisent déjà ces recettes pour tenir depuis plusieurs mois.
C'est une petite révolution pour les Cubains. À partir d'aujourd'hui, il est possible d'acheter et de vendre des voitures avec des devises étrangères. Mais la mesure n'est pas très populaire parce que les prix sont beaucoup trop élevés. Comptez 100 000 dollars pour une berline familiale et on ne parle pas ici d'une voiture de luxe. Mais le gouvernement cubain a opté pour cette stratégie dans l'espoir d'enrayer la crise de liquidité, Domiti Piron.
Les moteurs des vieilles américaines et des Lada soviétiques se font encore entendre plusieurs années à Cuba. Même si à partir d'aujourd'hui, de nouveaux véhicules sont vendus en devise, les prix restent inaccessibles pour la majorité. William, chauffeur de taxi collectif, roule dans une Chevrolet rouge de 1952 et n'est pas prêt de changer sa voiture.
Comment je pourrais l'acheter? Il faut avoir de l'argent pour ça.
Pour une Peugeot 206, il faut débourser à Cuba 90 000 couks, soit désormais 80 000 euros. La monnaie change, mais pas les prix. Alors pour Ibrahim Mansané, un carrossier qui ne possède pas de voiture, cette mesure ne changera rien.
Je suis fou d'impatience d'avoir une voiture, mais je ne peux pas. Ces prix n'ont rien à voir avec ce qu'on nous paye, nous, les Cubains. Moi, par exemple, je ne peux pas me le permettre parce qu'à moi, on ne me paye qu'en monnaie cubaine et ces prix sont dans une autre monnaie. Cette mesure, c'est pour les étrangers qui viennent ici, à Cuba.
L'objectif de l'État en grande difficulté économique est de récupérer des liquidités en devises via le portefeuille des Cubains qui reçoivent des mandats d'argent. Le ministre des Transports, Eduardo Rodríguez Dávila.
Il est vrai que cette mesure ne concerne pas la majorité de la population, mais l'argent perçu de ces ventes aura un effet positif sur nos possibilités d'acquérir des ressources pour investir dans le transport collectif.
Mais pourquoi vendre des voitures en devise s'il n'y a pas d'essence? C'est aussi la question qui se pose ironiquement ici. Cuba souffre depuis le mois de novembre de fréquentes pénuries d'essence depuis que l'administration Trump menace les bateaux étrangers qui livrent le pétrole sur l'île.
Domiti Piron à La Havane.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. L'un des procès les plus attendus du moment s'ouvre aujourd'hui.
3 ans après l'affaire des soupçons d'emploi fictif qui a provoqué la chute politique de François Fillon, l'ancien Premier ministre, son épouse Pénélope et son ancien suppléant comparaissent à Paris. Les trois prévenus encourent notamment 10 ans de prison. Si elle souhaite éviter cette peine, Pénélope Fillon doit prouver la réalité du travail effectué, Antoine Marette.
C'est une femme discrète dans l'ombre de son mari. Ses interviews sont rares. En 2007, alors que François Fillon vient d'être nommé à Matignon, elle évoque dans un journal britannique sa vie de femme au foyer et elle précise ne jamais avoir été l'assistante de son mari. L'entretien est exhumé 10 ans plus tard. Pénélope Fillon donne alors l'impression de se trahir elle-même. Elle qui fuyait la lumière arrive au devant de la scène à son corps défendant. L'affaire Fillon devient le Penelope Gate. Quelques jours après les révélations du Canard enchaîné, on la voit participer à une mise en scène de son couple à la Villette. Acclamée par la foule de militants, assise à côté de son mari, elle peine à retenir ses larmes. Pendant 3 mois, François Fillon s'accroche à la présidentielle. Il conteste chacune des accusations d'emploi fictif, mais il ne convainc ni l'opinion publique, ni les juges d'instruction qui le mettent en examen, ainsi que sa femme.
Pénélope Fillon aurait perçu plus d'1 million d'euros pour des emplois d'assistante parlementaire. Pendant ses presque 3 semaines d'audience, il lui faudra convaincre les juges de la réalité du travail effectué.
Antoine Marette. Déjà une semaine que les députés examinent le projet de loi de la réforme des retraites et ça n'avance pas vite. Hier, les députés ont adopté un amendement à l'article 1. Il en reste encore des dizaines de milliers à examiner, dont une majorité déposée par la France Insoumise. Alors la menace du 49-3, cet article de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote à l'Assemblée, grandit, Simon Soubieux.
En une semaine, seulement la moitié de l'article 1 du projet de loi a été examinée, très loin des 65 articles au total. Gilles Legendre, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée.
Nous sommes depuis 7 jours les témoins d'une entreprise d'obstruction qui frôle le sabotage. Vous voyez bien qu'on est très très clairement dans une volonté que cette loi ne soit jamais votée.
Les députés de la majorité mettent explicitement en cause la France Insoumise et le groupe communiste, une trentaine de députés dépositaires de plus de 20 000 amendements. Sandra Moutet, députée La République En Marche, co-rapporteuse du projet de loi.
Inlassablement, depuis 7 jours, on tourne en rond. Ils n'ont fait que des amendements pour remplacer des de temps en temps par parfois, ou des virgules par des points-virgules. Donc soyons sérieux dans cette affaire. Ceux qui veulent bloquer les choses, c'est France Insoumise et les communistes. Ceux qui veulent le 49-3, c'est certainement pas nous, c'est bien eux.
Des accusations que rejette en bloc le président du groupe La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.
Pour nous, c'est le pire, le 49-3, parce que ça arrête le débat. Donc c'est le pire pour nous. Commençons déjà par dire pour qui c'est le pire. Parce que nous, on n'a aucun intérêt au 49-3. Donc pour nous, c'est la grenade de 2 encerclements du gouvernement.
Le groupe La France Insoumise, tout comme celui des communistes et des socialistes, demande que les débats se poursuivent au-delà des 2 semaines encore prévu à l'Assemblée.
C'était le journalisme, c'était l'audiovisuel public, c'était une conscience. Mathieu Gallet, l'ex-PDG de Radio France, a rendu hommage hier à Hervé Bourges. L'ancien patron de TF1, France 2, France 3 et RFI est mort hier à 86 ans. Il avait aussi été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel entre 1995 et 2001. La France est divisée aujourd'hui entre une bonne moitié nord sous la grisaille et même la pluie dans le nord-est et le soleil dans le sud. Vous n'aurez pas plus de 11 degrés à Brest, 12 à Lille, 14 à Paris et Strasbourg, 15 à Bordeaux, 17 degrés à Lyon et jusqu'à 21 à Perpignan, Guillaume.
Merci Margot Delpierre.